le berceau de l'histoire. Jean-Pierre Constantin.
Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'un des peuples les plus mystérieux de l'Antiquité, à savoir les Étrusques. Ce peuple qui a occupé la partie nord de la botte italienne, qui a précédé Rome, précédé les Romains, avant de se faire absorber par cette dernière. Pour en parler, j'ai invité l'un des meilleurs spécialistes de la question, Dominique Briquel, auteur entre autres d'un « Que sais-je » sur le sujet, ainsi que d'un livre de référence sur la civilisation étrusque paru chez Fayard. Alors, pour commencer, à quoi tient ce halo de mystère qui entoure les Étrusques, Dominique Briquel ? D'abord, leurs origines. On ne sait pas bien d'où viennent les Étrusques.
Effectivement, déjà dans l'Antiquité, on discutait à n'en plus finir pour savoir si les Étrusques étaient des gens qui étaient des natifs du lieu, étaient ce qu'on appelait des autochtones, ou étaient des émigrés qui étaient venus d'ailleurs. Et en particulier, celui qu'on considère comme le père de l'histoire, du moins dans la littérature classique gréco-latine, Hérodote, racontait que les Étrusques, en réalité, étaient les descendants d'une population d'Asie mineure, les Lydiens, qui auraient émigré dans leur pays. Alors d'autres auteurs racontaient un peu autre chose, disaient qu'ils descendaient des Pélages, les Pélages auraient été là aussi un peuple assez étrange qui aurait précédé les Grecs sur le sol grec avant l'arrivée des Grecs eux-mêmes, même chose, ils seraient venus s'installer en Italie. Alors comme si ça ne suffisait pas, les modernes avaient encore rajouté une autre théorie, voulant que ce soit des gens qui viennent du nord, à travers les Alpes, etc. Donc, au fond, il y avait cette grosse question, savoir d'où venaient les Étrusques. Et déjà dans l'Antiquité, par exemple, Denis d'Halicarnasse disait qu'ils étaient des autochtones, donc il y avait des discussions entre spécialistes. Alors, cela contribue pour beaucoup à la question de ce mystère étrusque. En réalité, je dois dire que sur ce point-là, il faut peut-être voir les choses différemment. Au fond, tout peuple est le résultat d'une stratification, d'un mélange d'apports divers, et pour les Étrusques, ça a des chances d'être le cas. Et on voit bien qu'à la fois, les Étrusques sont dans le prolongement des vieilles civilisations qui existait à époque ancienne sur le sol italien, mais d'autre part, ont reçu assez tôt des apports extérieurs, de la part des Grecs, de la part sans doute aussi des Phéniciens, même si c'est moins net. Autrement dit, la civilisation étrusque ne s'est développée que par la superposition de ces différents apports.
C'est une civilisation qui a existé de manière indépendante avant que les Romains ne prennent le dessus, entre le 9e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle, c'est ça ? C'est à peu près ça ?
Oui, grosso modo, on peut dire que les Étrusques ont été la grande civilisation de l'Italie centrale, bon, d'une manière large, on peut dire, dans la première moitié du premier millénaire avant notre ère. Avant, bien sûr, que les Romains conquièrent leur territoire et qu'ils soient absorbés chez les Romains. Mais c'était vraiment la zone la plus développée. Et justement, par rapport à Rome, lorsque Rome a dû commencer, si on admet la date canonique de la fondation par Romulus en 753, bon, Rome, c'était des agrégats de cabanes, alors que les Étrusques avaient déjà développé des villes. Ensuite, Rome a eu un certain nombre de rois étrusques, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius, Tarquin le Suprême, entre 616 et 509, d'après les dates de la tradition, et certainement, sans les Étrusques, Rome ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue.
Thank you.
Dominique Briquel, est-ce qu'il y avait un État étrusque? Est-ce qu'il y avait un gouvernement central, une monarchie? Que savons-nous exactement de l'organisation de cette civilisation? Et quels sont les éléments que nous avons à notre disposition aujourd'hui? Il y a beaucoup d'éléments d'archéologie, je suppose.
Oui, alors bien sûr, heureusement, l'archéologie permet de comprendre les choses. Bon, je parlais du développement des villes étrusques. C'est vrai qu'à partir, grosso modo, du 8e siècle avant Jésus-Christ, les villes étrusques sont déjà assez importantes. Et ce qui, justement, explique l'importance et le succès des étrusques, ils avaient la chance, par rapport aux autres peuples de la Méditerranée, aussi bien orientale qu'occidentale, d'avoir une richesse minière qui était tout à fait remarquable. Il y avait l'Espagne peut-être qui était comparable, mais disons au moins par rapport à ce qu'on avait en Grèce ou au Proche-Orient, ils avaient des capacités minières et même pour des produits comme le minerai de fer. Il y avait dans la région de l'île d'Elbe des zones minières avec un minerai de fer qu'on appelle l'hématite de très forte teneur et qui était du coup facile à travailler, qui a servi de base d'exportation. Donc ils sont entrés en contact avec les Grecs et les Phéniciens, ou plutôt c'est les Grecs et les Phéniciens qui sont venus prendre contact avec eux. Donc ça les a ouverts vers les civilisations plus développées de la Méditerranée occidentale et ça leur a permis de développer leur propre civilisation. Alors en même temps, ce qui est assez caractéristique de leur cas, c'est que, si j'ose dire, ils ont résisté. Les Grecs ont établi des colonies dans toute l'Italie du Sud et en Sicile. Donc ils ont installé des cités grecques. Mais les Grecs n'ont jamais créer de cités coloniales grecques sur le sol étrusque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Étrusques devaient avoir une cohésion sociale, politique, ont été capables de leur résister. Ce qui apparaît quand même clairement, c'est que c'était un peuple de cités, exactement comme les Grecs. Il y avait différentes cités étrusques et les Grecs utilisaient un terme qu'on a francisé sous la forme de dodécapole. Dodécapole s'est formé du mot dodeca qui veut dire 12 et pole qui veut dire ville. En fait, on nous dit que les Étrusques étaient organisés sous forme d'une fédération de 12 cités, donc de cette dodécapole, mais ça ne signifiait pas que c'était une union politique et un peuple unitaire. Au fond, c'était comme les cités grecques. L'histoire grecque est pleine de luttes entre Sparte, Athènes, éventuellement Thèbes, etc. Il y avait une unité culturelle, une unité linguistique sans doute. Il y avait sans doute aussi quelque chose qui était très important dans ce contexte des civilisations anciennes pour exprimer une unité ethnique ressentie comme telle. Il y avait des sanctuaires. Et souvent, l'appartenance à un peuple se traduisait par le fait que les différentes composantes de ces peuples, les différentes cités, disons, se réunissaient pour des cultes communs.
Dominique Briquel, quels étaient leurs rapports avec les Grecs?
Les rapports ont toujours été assez bons avec les Athéniens, et lors de la guerre du Péloponnèse, lorsque les Athéniens ont monté une expédition en Sicile, ils ont été appuyés par un contingent étrusque. Donc les Étrusques se sont alliés avec certains Grecs, avec les Athéniens, contre d'autres Grecs. Alors ces autres Grecs, qui étaient-ils? C'est les gens de Syracuse. Il y avait une rivalité pour le contrôle des espaces maritimes entre Syracuse et les cités étrusques, alors que le problème ne se posait pas dans ces termes par rapport à Athènes.
Et donc les Romains arrivent, et Rome emporte tout sur son passage.
Alors Rome, donc naît avec un certain retard par rapport à l'Étrurie, au point que à un certain moment, cela donc était ses souverains étrusques, les Tarquins, Servius Tullius entre les deux, qui ont été les rois de Rome. C'est simplement, au fond, des réussites individuelles de certains Étrusques qui sont arrivés à Rome, et avec des raisons un peu conjoncturelles, qui est que on voit que ces chefs étrusques qui ont réussi à Rome étaient souvent des chefs militaires. Or, il y avait eu un changement dans le mode de combat de l'époque, dans le monde grec, et ensuite les Grecs l'ont passé en Italie. C'est l'apparition de ce qu'on appelle la phalange. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des combats individuels, des sortes de duels à la mode homérique, on combat en ligne. Et donc ça donne une puissance par rapport à des adversaires qui combattraient isolément, qui évidemment assuraient une supériorité militaire. Or la phalange a été, là encore, avance de l'Étrurie grâce à ses contacts avec les Grecs. La phalange s'est d'abord développée en Étrurie. On a des représentations, justement, de troupes étrusques organisées suivant le modèle de la phalange.
Avant Rome.
Oui, parce que c'est ensuite, justement, ces chefs étrusques, qui devaient être des sortes de chefs de bande, chefs militaires, on les a quelquefois comparés aux condottieri de la Renaissance italienne, qui sont venus à Rome et qui ont pris le pouvoir à Rome. Ça ne s'est sans doute pas passé d'une manière uniquement pacifique. Là, il faut prendre une certaine distance par rapport à ce que nous racontent les historiens latins, mais ils sont arrivés avec ce modèle d'organisation militaire, bon, qu'ensuite, évidemment, les Romains ont développé.
Le berceau de l'histoire.
Nous parlons des Étrusques avec Dominique Briquel. Alors, le mode de vie étrusque, fait de plaisir, de luxe, de banquets, leur a valu une réputation de mollesse chez leurs ennemis.
Alors, vous avez parlé de mollesse, et effectivement, c'est un terme que les Grecs utilisaient fréquemment à propos des Étrusques. Alors, c'est un mot grec, truffé, qui veut dire exactement ça, et c'était repris par les Latins, qui parlaient même de luxuria. Alors luxuria, c'est pas notre luxure, mais c'est plutôt goût du luxe en général. Alors, quelle réalité y a-t-il derrière ça? Je vais faire une réponse à Alain Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est-à-dire, il y avait sans doute une certaine réalité, mais qui a été extrapolée par les Grecs et par les Romains, dans la mesure où les Étrusques pouvaient apparaître comme leurs ennemis. Au fond, l'exemple le plus clair, c'est des choses que les modernes ont retrouvées au XIXe, lorsqu'on a commencé à fouiller les tombes étrusques. En particulier à Tarquinia, on a vu ces splendides peintures qui décoraient les tombes étrusques. Et souvent, c'est des scènes de banquets, ou des scènes de jeux, alors jeux athlétiques, jeux sportifs, scènes de danse. Sur ces peintures de tombes étrusques, on voit les femmes qui banquettent avec les hommes. Or, c'est quelque chose qui aurait été impossible dans le monde latin et avant dans le monde grec. Ils ont songé à la femme athénienne, elle était dans son gynécée, elle ne se mêlait pas des affaires d'hommes, comme en particulier toutes ces questions de banquets. Les banquets, c'était uniquement masculin. Oui, c'est-à-dire qu'on pouvait faire venir des femmes, c'était tout à fait interlope, celles qu'on appelait les éthères, avec évidemment un terme noble pour dire des courtisanes, sinon des prostituées, mais une femme de bonne vie ne se serait certainement pas commise dans ce genre de choses. L'image à Rome, c'était du même ordre. Évidemment, il ne faut pas s'imaginer que les femmes étrusques étaient des dévergondées, mais ce qu'il y a quand même derrière ça, qui est plus sympathique pour nous, est que par-delà ce cas particulier de la femme au banquet, des femmes qui boivent, qui se permettent des choses, il y avait sans doute une réalité sociologique, malheureusement, que nous connaissons assez mal, qui est une liberté de la femme étrusque. Alors, une certaine époque, on avait fantasmé là-dessus, on s'était même imaginé que la femme étrusque jouissait d'une sorte de matriarcat. Bon, ça n'est sans doute pas ça. Mais la femme étrusque avait certainement une autonomie et des droits que ni la femme romaine ni la femme grecque ne connaissaient.
L'autre grand mystère des Étrusques, c'est leur langue. Cette langue s'écrit avec un alphabet dérivé du grec, on sait donc la lire sans problème, mais pour la comprendre, c'est une autre affaire. D'autant plus que cette langue ne fait pas partie de la grande famille des langues indo-européennes dominantes en Europe.
Oui, c'est ça qui est sans doute le plus important pour l'Europe continentale, qu'il y a là aussi ce gros problème de l'arrivée des langues indo-européennes et sans doute lié à au moins certains types de déplacements de population. Et en fait, le résultat que ça a tellement recouvert toute la surface de l'Europe que ce qui peut rester, c'est des petits substrats, des petites zones isolées. Le meilleur exemple, c'est sans doute le basque. Le basque qui est une langue tout à fait à part avec un système grammatical tout à fait particulier, ça doit remonter à avant l'arrivée des Indo-Européens, donc une époque préhistorique, et au fond, l'Étrusque, ça peut être la même chose.
Les Étrusques avaient aussi la réputation d'être très portés sur la religion. Ils étaient très religieux, très pieux.
Alors, il y a une formule de Tite Live qui dit que les Étrusques étaient considérés comme le peuple le plus religieux qui soit. Oui, parce qu'ils avaient développé quelque chose qui était essentiel pour eux et plus généralement dans le monde antique, dans la religion, qui était toute une science des rites et tout d'une science de la divination. Certains rites romains étaient d'origine étrusque, et en particulier, je reviens à la fondation de Rome par Romulus en 753. On nous raconte que Romulus avait suivi un rite étrusque, et que les villes romaines étaient fondées d'après le rite étrusque, et que Romulus avait fait appel à ses religieux étrusques, à ses prêtres étrusques, ses aruspices, ce qui était leur nom spécifique, pour lui apprendre quel rite il devait suivre. Et donc le rite connu de la fondation de Rome, où Romulus suit une charrue attelée d'un bœuf et d'une vache blanche, c'est d'origine étrusque. Donc les Étrusques avaient développé toutes sortes de rites, et ensuite les Romains les ont repris. Bon, il y avait sans doute des rites romains, mais pour eux c'est extrêmement, extrêmement important. Il faut se rappeler pour ça que les religions anciennes étaient des religions rituelles, et il était extrêmement important de suivre exactement les rites. Parce que si on se trompait dans l'accomplissement d'un rite, ben les dieux n'étaient pas contents.
Donc tout ça, c'était des messages des dieux qu'il s'agissait d'interpréter,
oui,
de comprendre. Alors, ils lisaient aussi, ils faisaient de la divination, ils essayaient de prédire l'avenir, dans,
oui,
les entrailles des animaux de
oui,
sacrifice, et en particulier le foie.
Oui. Alors, les aruspices, d'ailleurs, la spécialité de base, si je peux dire, des aruspices, c'était l'examen des foies des animaux sacrifiés. Dès qu'on fait un sacrifice, forcément, bah après, on ouvre les entrailles de la bête et on peut regarder son foie. Or, la finalité normale du sacrifice pour les Étrusques, et ça, c'est des textes, quelques textes latins qui nous le disent, était justement de consulter la volonté des dieux, de savoir ce que les dieux vous disaient. Alors, pourquoi le foie ? Ben, l'idée est relativement simple, que le foie est au centre de la bête, est un organe gorgé de sang, et un organe essentiel à la vie. Alors bizarrement, les anciens songeaient au foie plutôt qu'au cœur. Mais c'était le centre de la bête, et c'est là que se produisait, dans le sacrifice, une sorte d'échange entre l'homme et les dieux. Parce que l'homme, bien sûr, offrait la vie de l'animal en sacrifice aux dieux, et d'ailleurs, s'agissant du foie, c'était tellement offert aux dieux qu'on ne le consommait pas. Le foie ensuite était jeté dans le feu du foyer, donc montait avec la fumée et les flammes vers le ciel, donc ça ne restait pas en Rome. Mais entre-temps, les dieux avaient été gentils, si je peux dire, avaient mis dans le foie des signes que la ruspice était capable d'observer et d'interpréter. On a même un témoignage archéologique tout à fait fascinant. On a retrouvé, c'est en 1877, du côté de Plaisance, en Italie du Nord, une sorte de foie en bronze, qui est un foie modèle pour un ruspice, où on voit la surface du foie qui est découpée en cases, et chaque case porte le nom d'une divinité. Ça veut dire que si on notait à cet endroit-là une particularité, quelque chose d'anormal, ben, ça concernait tel dieu. Et ensuite, les livres devaient expliciter, savoir ce qu'il fallait faire, s'il fallait faire des offrandes, etc. Et ce qui est là aussi tout à fait significatif pour le sens de cette opération, qui est que le pourtour de ce foie en bronze était divisé en 16 parties, suivant les points cardinaux, eux-mêmes subdivisés en différentes parties. Et on sait, par les textes, que c'était aussi cette division que les aruspices étrusques utilisaient pour observer d'autres phénomènes comme la chute de la foudre dans le ciel. Si la foudre venait de tel endroit, ben, ça voulait dire que ça venait de tel dieu. Autrement dit, il y avait une correspondance entre l'univers dans son ensemble, avec le ciel qu'on pouvait observer, et le foie que l'aruspice observait au moment du sacrifice. L'idée d'une correspondance entre microcosme et macrocosme, le microcosme qui était le foie et le macrocosme qui était le ciel, est que, au fond, le foie devenait, dans l'opération du sacrifice, une sorte d'image en miniature du cosmos, et que les dieux nous faisaient passer des messages par ça.
Alors, ces aruspices, leur savoir-faire, leur façon d'exercer la divination, il devait y avoir des livres, des traces. Qu'est-ce qui est parvenu jusqu'à nous? Est-ce qu'ils ont écrit des traités?
Oui, alors, cette littérature religieuse était très importante. C'était d'autant plus important que ces livres étrusques, ces livres religieux étrusques, n'étaient pas considérés comme une affaire humaine. On considérait que c'était des êtres divins qui, au début de l'histoire étrusque, en avaient révélé le contenu aux hommes. Donc c'était des sortes de livres sacrés, mais qui étaient l'objet d'une révélation, que c'était le contenu de ce que les dieux avaient accepté de révéler aux hommes. Alors avec des légendes qui peuvent nous sembler assez étranges, par exemple la plus connue était celle d'un personnage qui s'appelait Tagès. Tagès qui était né aux alentours de Tarcunia, mais qui était né d'une manière étrange, parce que c'était un bébé qui avait surgi d'un champ qu'un laboureur étrusque était en train, justement, de travailler. Les Étrusques l'ont utilisé pour l'origine de leur religion, avec cette histoire d'un enfant merveilleux qui raconte ce qu'il avait à dire. Et alors, les Étrusques notent par écrit, et c'est l'origine des premiers livres sacrés étrusques, puis ensuite Tagès disparaît. Donc, quelque chose de tout à fait important dans la présentation qui se faisait d'eux-mêmes. Et ensuite, ces livres étrusques, qui avaient été complétés par rapport à cette révélation primordiale de Tagès, étaient l'instrument des aruspices. Ils se promenaient avec des rouleaux qui étaient le contenu de ces livres. Alors, ces livres ont dû subsister tant que le paganisme, j'utilise ce terme pour parler de la religion romaine traditionnelle, tant que cela existait, mais lorsque le monde romain a changé de religion, évidemment, ça n'a pas subsisté. Même, il y a eu une certaine volonté de détruire les traces de la religion ancienne. Il y a pu avoir des survivances tout à fait sporadiques. Un auteur byzantin qui s'appelle Jean le Lydien, Jean Lydus, qui vivait dans la Byzance de l'époque de Justinien, donc au VIe siècle, décrit un livre qui justement racontait cette histoire de Tagès, et il dit, mais le livre, il y a une écriture bizarre qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est clair, il avait entre les mains un traité étrusque. Donc dans la Byzance du VIe siècle, par hasard, il subsistait encore un traité, certainement d'étrusquin disciplinaire.
Il paraît que les Aruspices sont allés jusqu'en Égypte et qu'on a retrouvé une momie en Égypte.
Ah oui, alors c'est quelque chose d'assez amusant. Il se trouve qu'un de ces Aruspices a dû se promener en Égypte, vivre là-bas et y mourir. Et il avait amené justement de ses livres religieux. Alors, il faut expliquer aussi comment se présentaient ces livres. Et là, c'est quelque chose qui est aussi typique de l'Italie ancienne, qui est, ils n'avaient pas de papyrus, bien sûr, le parchemin n'était pas encore inventé, donc ils écrivaient sur des toiles de lin. Et on nous parle, les auteurs classiques en parlent, de livres de lin. Et ils écrivaient à l'encre sur des grandes toiles de lin, qui, il faut se les représenter comme étant des toiles repliées un peu à la manière des cartes routières. Alors, le problème est que, dans un pays comme l'Italie, ou plus généralement dans les régions de notre partie du monde méditerranéen, bon, il s'agit d'un support périssable, et bien sûr, on n'a plus d'exemple. Les inscriptions étrusques que nous avons, c'est uniquement des inscriptions sur pierre, sur métal, sur céramique, donc des choses durables. Mais ce qu'on écrivait sur des supports d'écriture courants, comme ces livres de lin, ou encore sur les tablettes sur lesquelles on écrivait un texte sur la cire, bien sûr, ça a disparu. Alors là, il a fallu un hasard assez étonnant, qui est qu'un Aruspice était parti en Égypte avec ses livres sacrés, et lorsqu'il est mort, les livres sont restés sur place. Alors simplement, on ne savait plus quoi en faire, sans doute pas grand monde n'était capable de les lire et de les utiliser. Donc des gens ont eu l'idée de découper la toile en question avec son texte, d'en faire des bandelettes et d'envelopper de ces bandelettes une momie. La momie d'une jeune femme, qui sans doute n'avait pas de rapport de parenté avec l'Aruspice en question. Jusqu'au jour où un professeur égyptologue de l'université de Vienne, qui s'appelait Kroll, a découvert que c'était de l'étrusque, parce qu'il avait quand même certaines notions sur la culture de l'étrusque. Aussitôt, les étrusciologues se sont jetés sur la chose, et en fait, c'est notre texte étrusque le plus long. Bon, il y a seulement 1200 mots, mais c'est de loin le texte le plus long. Mais justement, parce qu'il avait été transcrit sur un support périssable, qui aurait disparu ailleurs, mais qui doit cet enchaînement de circonstances tout à fait particulières, du fait qu'il s'est trouvé en Égypte, c'est uniquement pour cette raison qu'il a subsisté.
Et donc ce texte, il a été traduit, on sait le lire, il parle de quoi ?
Alors là, on arrive quand même à comprendre qu'il s'agit d'un calendrier rituel, c'est-à-dire un calendrier avec indication qu'il faut faire aux différents jours de l'année. Tel jour, il faut donner tant de telle offrande et tant de telle autre offrande à tel dieu. Donc, on a une idée de la structure générale, d'éléments de signification du texte, mais dans le détail, beaucoup de choses nous échappent. C'est un type de langue différent des langues indo-européennes. Et si c'était une langue indo-européenne, on ne serait arrivé à comprendre l'étrusque depuis longtemps.
Dominique Préquel, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Cette émission a été réalisée par Vanessa Rovinsky. Merci à vous de l'avoir suivie et à très bientôt sur RFI.